Spécial direct élection américaine ce soir avec Alexis Poulain, que j'ai toujours énormément de plaisir à retrouver sur le plateau Swissbox. Bienvenue à toi, Alexis.
Hello, merci. Bah, toujours un plaisir d'être là avec, avec tout le monde. Attends, je cherche la vidéo sur YouTube pour partager, mais je la vois pas.
Alors, est-ce que tu... Ouais, tu... peut-être ça prend un petit moment pour se mettre. Est-ce que tu vois quelque chose sur YouTube qui va arriver? C'est les miracles de l'Internet et de la modernité. Mais
Bah,
normalement,
écoute, on va
le
commencer.
système me dit que ça devrait être bon. Il y a déjà deux, trois personnes qui commencent à arriver sur YouTube. Est-ce que...
Bon, bah,
Voilà,
parfait.
si tu arrives à leur partager, c'est tant mieux. Alors...
Je suis ici.
Émission spéciale américaine, disais-je. Je me pose des fois la question, faut-il vraiment couvrir cette énorme mascarade si on parle de démocratie? Je suis un peu partagé parce qu'il y a quand même quelque chose de très important derrière ces élections. Et puis en même temps, faut-il vraiment tu vois, en faire tourner encore plus sur les réseaux sociaux? Il y a déjà tellement là-dessus. Enfin, je ne sais pas. Mais moi, je pensais quand même... que l'impact et l'importance étant si grand que nous devions prendre un moment pour un peu défricher le terrain. Qu'est-ce que tu en penses?
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Oui, il y a toujours la question de se dire est-ce qu'on en fait trop, sachant que bon, les chaînes d'infos en font des tonnes. Elles se sont délocalisées à New York, à Washington. Elles sont partout pour couvrir cette élection américaine de manière spectaculaire. Et en même temps, ben, un président américain, c'est un président américain. Ça n'a pas changé grand-chose. Honnêtement. De Kamala ou Donald, la politique extérieure américaine restera la même pour l'Europe, c'est-à-dire une politique de vassalité, une politique d'empêchement. Et après, la question évidemment qui se pose, c'est celle de l'Ukraine. Et le soutien à Israël est de toute façon garanti ad vitam aeternam tant que l'Empire reste l'Empire. Donc ça ne changera pas grand-chose. La seule question, si, c'est effectivement sur la rapidité de certaines solutions, sur. L'interventionnisme, sur le danger que représentent aujourd'hui les États-Unis, qui ne veut pas voir l'avènement plus avant d'un monde multipolaire, puisque les BRICS sont un vrai sujet dorénavant, la Chine est un vrai sujet. Alors, les BRICS restent fragiles, ce n'est pas non plus des superpuissances qui peuvent faire égal à égal avec cet empire militaro-industriel que sont les États-Unis, mais néanmoins, il y a un ras-le-bol du magistère moral en fait des États-Unis sur le monde, le fait que ces gens-là passent leur temps à donner des leçons, à intervenir de manière totalement illégale pour déstabiliser ou défaire des régimes. En Irak, on l'a vu, en Libye, on l'a vu. Le Maïdan en Ukraine, c'était la volonté aussi de pousser un régime pro-occidental. Et c'est ça le danger, c'est de voir les États-Unis, peu importe qui va gagner, devenir une sorte de bête traquée, inquiète, et donc qui va créer davantage encore de confusion pour survivre. Et aujourd'hui, je vois aucun des deux candidats changer cette doctrine américaine qui reste inchangée depuis les années 60, c'est-à-dire quel que soit le prix, les États-Unis doivent rester numéro un. Ça, c'est quel que soit le prix.
Oui.
Voilà.
Alors, moi, je me demandais quels étaient les enjeux particuliers. Tu viens de le dire, hein, finalement, ça ne changera pas grand-chose. Mais quand même, l'observation sur plusieurs théâtres de guerre, notamment l'Ukraine, où bah, c'était des déclarations, évidemment, ça ne reste que des déclarations. On sait ce que ça vaut, les promesses des politiciens. Mais quand Trump avait parlé de mettre un terme à la guerre, même avant d'arriver à l'office, je vois là quand même un enjeu international assez important qui pourrait soit faire poursuivre une politique, soit éventuellement la changer d'une manière ou d'une autre, même si la Russie a clairement dit que ça ne changerait rien pour eux. Il y a évidemment la situation au Moyen-Orient, à Gaza notamment. Et puis l'écologie aussi, on sait que les deux n'approchent pas la chose de la même manière. Quels sont quand même les points d'échoppement sur ces deux parties, si on peut dire ça comme ça, hein, puisqu'on sait que c'est presque
Oui, bah,
un
oui,
parti
clairement,
similaire.
il y a Gaza quand même. Oui, Kamala et Harris peut-être moins dans le support total de Netanyahou que pourrait l'être Trump. Il y a l'avortement, qui est un gros sujet de clivage aussi entre les deux parties, hein. On a tendance à oublier, mais c'est pas gagné aux États-Unis, l'avortement dans tous les États. Il y a effectivement le changement climatique, la façon dont c'est abordé. Et là, ce n'est pas du tout de la même façon des deux camps. Et puis, il y a le sujet de l'immigration, qui est quand même le sujet central, enfin, du moins ce que Trump a voulu en faire un sujet central. Parce qu'on se rappelle, lors de son premier mandat, il avait fait le mur entre les États-Unis et le Mexique. Et là, il a accusé les démocrates d'organiser le passage de nombreux clandestins pour qu'ensuite ils votent pour eux, en quelque sorte. Donc, c'était le gros sujet de la campagne. Et c'est les thèmes qui font qu'il y a un clivage fort entre les électorats. Maintenant, les problèmes des États-Unis restent les mêmes. C'est l'inflation, c'est le dollar qui est une monnaie de singe incroyable, assise sur une dette stratosphérique, et tout ça tenu par cette recherche de domination du dollar à n'importe quel prix, ce que je disais tout à l'heure. C'est l'interventionnisme qui coûte extrêmement cher, mais qui permet aux États-Unis de s'asseoir comme puissance numéro un, parce que c'est les seuls à avoir cette force de projection actuellement. Mais à quel prix, là encore? Et puis il y a le problème des emplois, de tout simplement dire il y a une désindustrialisation aussi. Trump l'avait compris, en voulant partir dans une guerre frontale avec une guerre commerciale avec la Chine, puisque tous les accords de mondialisation ont permis à la Chine d'être ce qu'elle est aujourd'hui, mais n'ont pas aidé du tout les anciennes puissances économiques. Et ça ne changera pas, quelles que soient les différences entre les deux parties.
On est aussi sur Twitch, et puis il y a des gens qui te suivaient sur Twitch qui disent: Ah, Alexis est de retour sur Twitch, ça fait plaisir. Donc voilà, parce que je sais que tu as quitté la plateforme, ou plutôt, tu
J'ai
étais
pas quitté la plateforme,
censuré sur
attends,
la
Antoine, s'il
plateforme.
te plaît. Non, non, il y a un procès qui est en cours, je vais en parler la semaine prochaine. Twitch nous a bannis, nous a censurés de manière scandaleuse, avec quatre raisons différentes à chaque fois. On demande des comptes à Twitch. Et j'attaque Twitch US, justement, pour des pratiques commerciales, pour savoir ce qu'il en est. Mais c'est un débat qui va au-delà du monde moderne contre Twitch. C'est vraiment sur ces faux contrats, en fait, de plateforme. Toi, t'es partner Twitch. Moi, j'étais partner Twitch à l'époque. Tu signes aucun contrat réel, hein. C'est juste des formulaires sur le site. Et du moment qu'ils suppriment ta chaîne, tu n'as plus accès à aucun document. Et après, c'est eux qui te disent: Ah, mais si vous avez signé un contrat, vous étiez. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux. Et je veux en faire un cas d'école, je vais faire une pétition, je veux ramener des streamers aussi pour que. Il y en a beaucoup qui se sont fait bannir, pareil, pour de faux motifs, et comprendre comment fonctionnent ces plateformes, parce que c'est de la liberté surveillée. On ne gambade pas dans la nature, même si on dit des choses qui sont légales, qui ne sont pas condamnables par la loi, ce que j'ai jamais fait, même si on fait de l'information et pas de la désinformation, il y a toujours un truc qui fait que la plateforme peut décider de te rendre invisible, de supprimer ta chaîne, etc., et de manière mais totalement unilatérale. Et ça, il faut en faire un sujet, parce que c'est encore un problème de souveraineté, c'est encore un problème de domination par les géants de la tech américains. Qui se sont arrogés ce droit-là, quoi, avec des règles de la communauté qui changent tous les mois s'ils veulent. Et toi, tu n'as aucune chance, en fait, puisque moi, si je voulais attaquer Twitch, il faudrait que j'aille devant une cour de conciliation américaine. Ça coûte une fortune. Donc, il faut que je passe là par un tribunal français pour essayer de dépayser le dossier, pour expliquer que bah, non, justement, on ne peut pas. Enfin, voilà. Donc, il y a tout un sujet important sur la place des créateurs de contenu dans ces plateformes qui sont extrêmement contraignantes.
Oui, et du coup, plein soutien à toi, hein, si tu as besoin d'accéder à Twitch par un autre biais, ben, n'hésite
Ouais,
pas
on le
à
fera.
venir par là. Alors, revenons à nos moutons. Le bilan de ces 4 dernières années sous la responsabilité du gouvernement Biden, qu'est-il à dire? Évidemment, moi, ce que je retiens, c'est quand même le génocide actuellement à Gaza, avec des États-Unis qui fournissent des armes. Je crois que c'est 70% des armes utilisées par le Mossad qui sont fournies directement par les États-Unis. Donc évidemment, pour moi qui regarde ça de l'extérieur, c'est absolument catastrophique. Mais est-ce que tu as un peu un bilan plus interne peut-être? Qu'est-ce qui l'a amené ou pas amené à la population américaine?
Le bilan de Joe Biden, si on commence sur la politique internationale, c'est quand même, ça commence par le fiasco afghan, avec le départ des troupes américaines de l'Afghanistan, en laissant derrière des milliards de dollars d'armes aux talibans. Donc c'est un beau cadeau de départ, après tout le bordel qu'ils ont semé en Afghanistan. Hein. Finalement, tout ça pour ça, pour au final rétablir les talibans avec en prime de départ un armement qu'ils n'avaient pas auparavant et qui appartenait aux soldats américains ou à l'armée afghane. Donc, bon, premier fiasco énorme. Ensuite, ça a été le sabotage de Nord Stream. Alors, évidemment, hein, ce n'est pas les Américains, ce serait un commando de plongeurs ukrainiens financés, blablabla. Personne n'y croit. Et là, j'en veux aux Européens de se taire, de ne pas faire une enquête réelle, de ne pas aller chercher et de ne pas accuser. Ceux qui se disent partenaires, en fait, d'être des ennemis, là, en l'occurrence, puisqu'ils ont saboté un outil de travail pour l'Allemagne, et l'Allemagne se tait, hein. C'est quand même incroyable, cette domination totale des États-Unis sur les leaders européens. Donc, ces deux choses-là, Gaza, comme tu le disais, c'est-à-dire que y a un double discours hypocrite et assez obscène, où on a Anthony Blinken, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui se balade dans la région au Proche-Orient tous les 3 mois, tous les mois, et qui va voir les Qataris, les Israéliens, les Saoudiens, les Égyptiens, pour dire qu'il faudrait un cessez-le-feu. Et de l'autre côté, tout la force de la production de l'armement américain qui finance, subventionne et offre et vend des armes à Israël pour continuer de tuer des civils, pardon, de tuer des terroristes parce qu'ils ont le droit de se défendre. Mais là, maintenant, ça déborde sur le Liban. Et quand même, Netanyahou a entendu raison quand il a voulu frapper l'Iran. Je crois que la frappe israélienne sur l'Iran, effectivement, c'était une frappe théâtrale, hein. Il n'y avait pas de volonté. Là, je crois que les États-Unis ont réussi à le stopper parce que sinon, c'était incontrôlable. Et puis, autre fait d'armes internationales, c'est l'Ukraine, évidemment. Alors, l'Ukraine, ce n'est pas Joe Biden en tant que tel, même si c'était sous l'administration Obama que la déstabilisation du Maïdan a été organisée. Avec Victoria Nuland, etc. Il a capitalisé là-dessus et à partir du moment où Vladimir Poutine a choisi d'envoyer les chars, pensant que c'était une solution, c'était en fait le feu vert pour lancer une guerre par proxy contre la Russie avec l'aide de l'OTAN et une guerre extrêmement criminelle qui a tué un nombre incroyable, enfin c'est terrible, hein. L'Ukraine, c'est des centaines de milliers de morts de jeunes slaves qui s'entretuent alors qu'une solution pouvait se trouver sur le papier. Et là, on voit qu'il n'y a pas de volonté d'en sortir, même si, encore une fois, le plan de paix de Volodymyr Zelensky a été accueilli très froidement par les Occidentaux. On continue, hein, de financer. Et si jamais les États-Unis venaient à ne pas financer l'Ukraine, alors là, on a des atlantistes encore plus féroces en Europe qui sont prêts à prendre le relais et à financer. Nathalie Loiseau expliquait, mais ça coûte pas cher de financer l'effort de guerre en Ukraine, c'est un café par mois pour chaque Européen, je comprends pas qu'on fasse pas plus. Benjamin Haddad qui explique que peu importe les États-Unis, il nous faut une défense européenne, un axe stratégique, et l'Ukraine, c'est vital et il faut y aller jusqu'au bout. Le bout, c'est un affrontement avec la Russie, l'OTAN contre la Russie et une potentielle guerre nucléaire. Mais visiblement, ça ne gêne personne, hein. Enfin, les gens qui en parlent de manière théorique sont quand même assez incroyables là-dessus. Donc voilà, c'est le bilan international de Biden. En interne, ça a été. Effectivement, il y a eu un mieux sur le chômage, mais parce qu'il n'y a pas de, il y a pas vraiment d'indemnisation aux États-Unis, donc tout le monde doit trouver des petits boulots et se démerder avec de multiples jobs. L'inflation a été un vrai problème, et pas seulement aux États-Unis, mais elle a été quand même un vrai problème, y compris pour les entreprises américaines, et puis une politique protectionniste, comme d'habitude, qui n'a pas vraiment changé. Mais le pire, ça a été, je crois, de voir le déclin cognitif de Joe Biden, qui a été très rapide. Et alors que tout son camp assurait qu'il était tout à fait capable d'être aux commandes, qu'il était très fort, qu'il était très clair, enfin, ça se voyait qu'il était à l'ouest. et qu'il n'avait pas l'âge ni la capacité d'avoir ses fonctions. Donc le mensonge d'État qui a été rendu public de cette façon-là, je pense que ça a fait beaucoup de mal déjà aux Américains qui avaient très peu confiance en l'État central, mais n'a fait que renforcer cette défiance. Et puis au niveau international, voilà, à qui parlent réellement les chefs d'État quand ils parlent au président des États-Unis? Bon, bah, visiblement, ce n'est pas au président des États-Unis qu'ils parlent. Donc voilà, le bilan de Biden, je dirais que c'est en quelques mots, c'est ça.
Parce qu'on regardait avec cet après-midi avec un copain les résultats économiques, effectivement, certains diraient que si on regardait uniquement ça, il n'y aurait même pas photo, puisque le gouvernement Biden a effectivement, comme tu l'as dit, réduit le chômage, l'économie ne se porte pas, en tout cas, moins bien. Maintenant, après, les indicateurs, on leur ferait toujours dire un petit peu ce qu'on veut, mais quand on entend Trump, quand même, il ne cesse de répéter que Biden a détruit les États-Unis. Et moi, j'imagine qu'il fait plutôt référence à la culture, hein, ou à des formes de valeurs qu'ils auraient pas en commun, mais on n'arrive pas très bien à identifier lesquelles, éventuellement là, voilà.
Ouais.
Est-ce que tu arrives à voir, en fait, quelle est la critique justifiée que le camp Trump pourrait porter, pardon, à Biden?
Bah, c'est cette critique-là, c'est de dire il n'a pas été assez fort pour défendre les intérêts des États-Unis, notamment face à la Chine, hein, où il a été assez faible comparé à ce que voulait l'administration Trump. Et c'est ça, majoritairement, je pense, la critique numéro un, elle est sur le business. Et puis après, il y a la critique aussi sur les valeurs morales, on va dire, avec les démocrates qui sont devenus un parti de toutes les minorités, qui ont beaucoup surfé sur le woke, sur Black Lives Matter, sur les LGBT, sur les femmes, voilà, les minorités de couleur, et qui segmentent, en fait. La population américaine en autant de segments marketing politique, plutôt que d'essayer de rassembler ou de dire, bon, bah, c'est pas que ça, il y a aussi beaucoup d'autres réalités aux États-Unis, mais c'est un pays très divisé entre les villes et les campagnes, entre les petites villes et les mégapoles, et c'est un pays où il y a vraiment maintenant deux camps et des réalités en fait qui n'ont plus rien à voir. Les Américains peuvent vivre aux États-Unis. Mais entre États et au sein d'un État, selon si vous êtes citadin, urbain ou plutôt campagnard, vous n'avez pas du tout la même perception de la réalité à l'intérieur et à l'extérieur des frontières.
Alors, j'ai regardé sur X, hein, maintenant c'est bon, si tu veux le partager, le live, il tourne bien sur X aussi. J'ai remarqué que ça s'était pas updaté avec la dernière émission que j'avais fait.
Ah
Est-ce
voilà.
que tu as un petit peu, enfin, regardé les sondages notamment? Là, on voit que pour cette nuit, c'est assez incertain. J'entends un peu tout, hein, pour être honnête. Certains disent que ça va être un landslide, c'est-à-dire il ne va pas y avoir photo du côté de Trump. D'autres disent le contraire pour Harris. Les sondages, selon moi, sont beaucoup plus partagés. À ce stade, je serais assez dans l'incapacité de te dire ce qui va vraiment se passer. J'aurais une petite tendance vers Kamala, justement. Que ça, voilà, l'intuition, je ne sais pas vraiment sur quoi c'est basé, mais voilà, j'aurais une petite tendance en faveur de Kamala Harris à ce stade. Et toi?
Ouais, mais je pense que moi les deux camps vont être coude à coude. Attends,
Bon coup, bon un petit coup
excuse-moi.
d'eau.
Tu parles toute la journée,
Tu
j'arrive et
m'étonnes.
c'est fini.
Et là, il n'y
Attends,
a
pourquoi
rien dans le
j'arrive?
minibar en plus, donc.
Ah, y a rien dans le minibar, mais c'est ça aussi, putain, je suis à sec, quoi. Ah.
T'inquiète pas. Ouais. Donc, bah, moi, je suis un petit peu des fois les sondages trackers. C'est là où ils
Voilà.
regroupent un petit peu tout en moyenne les sondages. Puis tu vois déjà, et
Non,
là on
mais les
pourrait parler
sondages.
peut-être de l'influence des boîtes de sondage, parce que j'ai l'impression, mais
Non,
comme
mais
en France
voilà.
aussi, il y a quelque chose d'éminemment politique derrière les chiffres, quoi.
Non, il faut pas se fier aux sondages. Les sondages, c'est bien pour un moment donné dire voilà, on en est là, mais et encore avec des marges d'erreur incroyables. Les sondages juste les veilles d'élection, c'est n'importe quoi. Et clairement, ce que disent les sondages, c'est que ça va être très serré, très difficile de savoir qui va gagner. Trump dit qu'il va gagner de manière incroyable, enfin, il fait du Trump. Les démocrates disent qu'ils vont gagner. Et je pense que oui, les deux camps vont assumer et dire on a gagné. Et ensuite, il y aura un décompte et je pense qu'il va y avoir un imbroglio. Je ne pense pas que ça va être facile. Et effectivement, quand tout ça va sédimenter, on a l'impression que. Alors, c'est parce que les mainstream médias aussi penchent de ce côté-là, ce serait plutôt Kamala que Trump, parce que Kamala Harris est une femme, ce serait la première femme présidente après le Obama, qui était le premier homme noir président, etc. Donc, ça fait partie du storytelling. Maintenant, Trump, il a son premier mandat, il a fait une campagne. Comme d'habitude, avec de nombreux meetings, avec des rebondissements, enfin le showman qu'il est, quoi. Mais il parle surtout à son camp, il ne va pas aller convaincre au-delà. Et on a deux camps, je pense, très mobilisés ce soir, qui vont aller voter pour leurs idées. Et c'est ça qui montre en fait une Amérique divisée, et ça va ne faire qu'empirer, hein.
Ouais, clairement. Toi, t'aurais un. Toi, en tant qu'Alexis, est-ce que tu aurais une préférence? Parce que moi, quand j'y réfléchis, si j'étais américain, ouais, je
Ouais.
sais pas, je serais probablement partagé. Mais en tant qu'étranger, pour moi, Trump, j'aurais peut-être une petite préférence pour Trump. Non pas qu'il va arranger les choses, parce que je n'ai jamais rien vu. Émanant de lui, qui tendrait à prouver qu'il n'a pour intérêt d'autre que lui-même, si tu veux bien.
Ouais.
Mais Kamala Harris, bah, je vois bien que c'est la préférée de l'oligarchie, qu'ils l'ont mis à un
Voilà.
endroit un petit peu comme Obama, pour
C'est
finalement
ça.
remplir la mission qu'ils voudront bien lui donner, parce qu'elle est servile et puis elle fera ce qu'on lui demande. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bah oui, tu viens de le dire. Moi, je pense que je préfère Trump et de loin parce que c'est une carte Joker. On ne sait pas. Et c'est quelqu'un qui. A déjà fait ses preuves à la Maison Blanche. Il a montré qu'il était capable d'éviter des guerres, de faire cette guerre commerciale contre la Chine, mais aussi avec l'Iran. Hein. Il a quand même organisé l'assassinat de Soleimani sans que ça déclenche une guerre. Il est assez pragmatique et je pense qu'il est moins contrôlable effectivement par le deep state, hein, l'establishment, on va dire, les lobbies industriels qui font les États-Unis. Ce qui fait qu'il y a cette peur en fait d'avoir à nouveau Trump qui là pourrait régler des comptes par rapport à son premier mandat où il n'a pas vu venir certaines trahisons, certaines mises en compte. Donc voilà, Kamala Harris, c'est la continuation de Obama depuis toujours, c'est-à-dire la même politique et rien ne va changer. Donc moi je préfère Trump dans le sens où il est incontrôlable, beaucoup moins contrôlable, qu'il est aussi pour des solutions pacifistes, qu'il est après ça reste un président américain, je le dis toujours, hein, un président américain, ça défend les intérêts des États-Unis. Et tous les autres pays n'existent pas. Hein. C'est faux de croire qu'on est d'égal à égal, qu'on est partenaire. Enfin, il faut voir la façon dont on est traité comme des paillassons en Europe, écoutés par les services de la NSA, totalement soumis aux diktats en fonction des politiques protectionnistes américaines. Il faut voir Jean-Claude Juncker, dernier président de la Commission européenne avant Ursula von der Leyen. Son dernier acte, c'était d'aller aux États-Unis, de se baisser, de dire non, surtout, surtout, ne mettez pas une taxe sur les voitures européennes. Voilà, donc un président américain, c'est ça. Peu importe qui y sera. Mais pour les Américains, je ne sais pas ce qu'est le mieux, honnêtement. Je pense que comme le pays est extrêmement divisé, il n'y a pas de solution. Ce sera de toute façon une moitié de pays qui sera mécontente. On en est à ces échelles-là, quoi. La démocratie aujourd'hui, c'est ça, hein. C'est le fait majoritaire, n'existe plus, hein. C'est vraiment délicat.
Alors, avant de parler de la vassalité effectivement de l'Europe plus en détail, quand même, moi j'ai peur d'une chose quand même avec Trump parce que il semble, Tu parles effectivement qu'il n'a pas démarré de nouvelles guerres, mais quand même il a fait des actes assez dangereux. Ça lui donne raison parce que ça pas, il n'y a pas eu d'escalade avec ça. Mais quand même, il semble dire que sous son égide, il n'y aurait pas eu le 7 octobre. Sous son égide, il n'y aurait pas l'Ukraine, enfin la Russie qui aurait osé attaquer, etc. Sous-entendu, les gens ont tellement peur de moi, ils comprennent tellement que je vais leur taper sur la gueule s'ils bougent un petit doigt, qu'ils ne le font pas. Et à mon avis, ça c'est aussi, c'est absolument faux. Et si tu penses comme ça,
Oui.
tu peux aussi alors dire menacé par des choses complètement aberrantes comme l'arme nucléaire en pensant que voilà, tu bombes le torse plus que l'autre. Et puis ça peut mener à une catastrophe parce que ça me semble pas être très réfléchi tout ça finalement. Et puis quand tu regardes
Non.
l'environnement, c'est-à-dire les gens qui entourent Trump, c'est-à-dire le gouvernement en général qui met à son service, eh bien, drain the swamp, mon cul, hein, je veux dire, c'est tous des gens bien profonds, ancrés dans dans le carcan
Ouais.
de l'oligarchie et du pouvoir traditionnel tel qu'on le connaît depuis maintenant des décennies. Donc, j'ai pas
Bien
encore,
sûr.
si tu veux, il y a la rhétorique et puis il y a les faits, il y a les actes, et ces 4 premières années, elles n'ont pas prouvé grand-chose par rapport à ça, en tout cas par rapport à des pas vers la paix, peut-être avec la Corée du Nord et sa fameuse rencontre avec Kim Jong-un, mais
Ouais,
voilà.
si, mais ça, c'était quand même un message fort sur les pays non alignés pour dire on va peut-être trouver d'autres solutions que la guerre froide permanente. Donc oui, c'était important, mais c'est en ça que ça peut être intéressant, justement, de dire avec Trump, il y aurait peut-être une réelle politique vis-à-vis des BRICS, limitée par la protection du dollar à tout prix. Hein. C'est lui qui dit qu'il irait à taxer jusqu'à 100% et
Ouais.
plus ceux qui refuseraient le dollar. Enfin, donc, il est prêt à aller très très loin dans la défense du dollar. Donc, c'est en ça que tout ce qu'on dit là, c'est à prendre avec des pincettes parce que rien n'est évident, en réalité.
Il y a cependant, c'est un autre argument que je ferais aussi plus pour Trump, c'est que finalement Trump-Biden, en termes de politique, c'est pas si éloigné, même si évidemment il y a toujours ce show derrière. Mais une chose qui est intéressante, c'est que l'Occident ou le libéralisme propre et l'oligarchie, elles n'aiment pas le visage de Trump ou l'expression de Trump. Est-ce qu'il dit des fois trop haut ce que les autres font, peut-être en mentant sur leurs intentions? Mais j'ai l'impression que ce sera peut-être plus facile pour l'Europe ou les autres pays du monde de se distancer d'un gouvernement Trump, parce que de toute façon, c'est normal de le détester finalement. Et puis que du coup, s'il y a une possibilité d'émancipation, elle se fera peut-être un peu plus facilement avec Trump qu'avec
Non.
avec Biden,
Non, non,
non?
non, non, non. Il y a eu 4 ans pour le faire lorsqu'il a été président la première fois. L'Europe n'a pas bougé d'un petit doigt. Macron l'a reçu à la Tour Eiffel, etc. Il s'est fait humilier à la Maison-Blanche. Non. Je veux dire, la fenêtre de tir, elle a existé, hein. Il y a eu 4 ans où Trump a été président. Rien n'a changé. Je veux dire, la puissance des États-Unis est telle, en Europe du moins, la volonté doit venir des leaders européens, pas d'un président américain quelconque. Aujourd'hui, n'importe quel leader européen est totalement inféodé aux intérêts de Washington, à tel point qu'on peut se demander s'ils travaillent pour les intérêts de leurs pays respectifs. Quand on voit Macron, je vous invite à regarder le reportage de Off Investigation Macron l'Américain, il y a de sérieux doutes quant à son pays de cœur.
Et là, on pourrait même se poser la question, inféodé aux États-Unis ou à l'idéologie sioniste, puisque si tu regardes Trump ou Kamala, la surenchère, c'était non, c'est moi qui soutiens le plus Israël. Non, c'est moi le meilleur avec Israël.
De toute façon, les États-Unis, oui, auront un soutien inconditionnel à Israël, pas forcément à Netanyahou. C'est là que la différence se fait. Trump n'a aucun problème avec aujourd'hui la politique et la guerre de Netanyahou. Kamala Harris, mais encore une fois, par pur électoralisme, est obligée de dire, ah oui, il faudrait faire attention parce que ce sont les jeunes démocrates qui faisaient les manifestations pro-palestiniennes, parce qu'il y a un électorat qu'elle cherche aussi à toucher. Et donc, elle dit ça. Mais la politique américaine vis-à-vis d'Israël ne changera jamais. C'est un soutien jusqu'à la guerre avec l'Iran et les nations arabes qui voudraient éradiquer Israël de la carte.
C'est rigolo parce qu'on parle toujours de Trump ou Kamala, mais en l'occurrence, il y a d'autres candidats. Et moi, si j'étais américain, je sais pertinemment que je voterais ni pour Trump ni pour Kamala. C'est une certitude. Moi, je ne vote pas pour la peste ou le choléra, le génocide ou le fascisme. Ça me semble complètement aberrant. Et dans les médias, évidemment, c'est pas des voix qu'on entend. Mais là, en l'occurrence, moi, je voterais soit pour Jill Stein ou soit pour Cornel West, qui sont les deux personnes un petit peu sensées que j'entends parler là-bas. Et il y a cet espoir que les écologistes, donc, mais ce n'est pas l'écologisme européen,
Non,
c'est
non,
un.
Justin, c'est la gauche en fait,
C'est la,
c'est la candidate de
exactement, la
gauche.
gauche radicale,
Ouais,
anti-impérialiste,
la
celle
gauche,
qui fait encore du
voilà.
sens.
Mais du coup, il se fait critiquer par le camp démocrate en disant qu'elle pourrait faire perdre
Toujours,
quelques voix et
le
qu'elle aurait dû se
chantage.
rallier à Kamala Harris, etc. Toujours la même chose. Mais c'est vrai que c'est des candidats qui n'ont pas l'accès aux médias. C'est comme en France, hein. Le système est très bien verrouillé. En plus, c'est un système bipartisan, donc c'est encore pire. Donc c'est des candidats qui n'ont pas d'accès aux médias, qui ont très peu d'écho à l'international et dont on parle peu. Il y avait Robert Kennedy aussi, et lui, il a rallié Trump. Et sur Jill Stein, ouais, c'est un nom dont on parle en disant c'est cette candidate-là qu'il faudrait. Mais encore une fois, c'est un système, c'est pas la démocratie, c'est la ploutocratie, c'est l'argent qui fait le candidat, c'est l'argent qui donne le pouvoir. Et c'est particulièrement visible aux États-Unis où les campagnes coûtent une fortune, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ce qu'on appelle nous démocratie, ce sont des ploutocraties. Alors peut-être moins en Suisse parce qu'il y a les votations et c'est un système différent, mais en France, c'est évident. Aux États-Unis, c'est évident.
Ouais, absolument. L'espoir pour les écologistes, je crois que c'était d'avoir 5% afin d'avoir des financements au niveau national pour les prochaines élections ou
Bon,
quelque chose comme
absolument,
ça.
ouais, c'est
Et dans
ça.
certains sondages, j'étais à 4%, mais je crois que après, souvent, quand on est comme ça devant le bulletin et on revient un petit peu à la peste ou le choléra, ou le tu sais, lesser of two evils, hein, le moins pire ou le moins diabolique des deux candidats, le problème, moi, je pense, c'est que à ne jamais voter que pour le moins pire des diables, bah, tu finis en enfer et c'est certainement ce qui va se passer. Parce que, admettons que Kamala passe, moi je pense que du coup ça va bouillir, bouillir, bouillir et ça va encore préparer à l'élection d'un fanatique encore plus jusqu'en boutiste que Donald Trump.
Oui, sans doute. Oui, mais les États-Unis m'inquiètent, hein. C'est un pays inquiétant.
On est d'accord.
Voilà. Donc c'est vraiment un comment dire, c'est un pays qui n'est pas sain dans le sens où la dette est ingérable, l'inflation est ingérable, la croissance repose uniquement sur la déstabilisation aux marges de l'empire. Enfin, c'est le principe d'un empire. Un empire, ça s'effondre au bout d'un moment. Donc, l'effondrement de l'empire américain, il est long, hein, mais on va le vivre. C'est quelque chose qui est engagé. Et ça va être dangereux. Une chute d'empire, c'est quelque chose de dangereux. Et on ne sait pas qui va prendre la suite. Alors, visiblement la Chine, mais est-ce que nous, on a envie de vivre avec le PCC comme leader moral de la planète? C'est toute la question. Aujourd'hui, les États-Unis comptent beaucoup sur l'Occident pour soutenir leur politique de leadership. Et l'Occident fait bloc, parce qu'ils savent que si jamais l'Empire tombe, bah, tout l'Occident tombe. En réalité, l'Empire américain, c'est ça, hein, c'est l'Occident. Et en ce moment, je trouve que Gaza est révélateur de la limite. Je trouve que l'Ukraine est révélateur de la limite. Les BRICS aussi sont révélateurs de la limite. Donc on vit un moment historique qui va ouvrir toutes les possibilités, hein, et ça, c'est le danger.
Pardon. Tu as notifié avant Kennedy qui a rejoint la campagne de Trump. Moi, j'étais un peu quand même un peu surpris de ça, puisque Kennedy, alors pas sur Israël, mais notamment sur les pharma et la santé, il ne va pas avec le dos de la cuillère et remet en question beaucoup de pratiques et, à mon avis, de corruption. Et bah ça aussi, c'est un argument qui me ferait tendre vers Trump en termes de préférence de résultats. Est-ce que tu penses que ce gars pourrait amener un peu de sanité dans ce domaine-là par rapport à peut-être mettre en lumière des choses qui se sont passées pas très loyales, notamment pendant la période du Covid?
Ouais, bah d'ailleurs, c'est important. Ça bouge davantage aux États-Unis qu'en Europe, hein, sur le monde médical qui veut davantage de recherche et de vérité sur ce qui s'est passé. Et je pense que oui, Kennedy portait cette parole-là. Trump aussi, hein, sur un autre dossier, mais sur le dossier Epstein, qui disait, ouais, je veux déclassifier, etc. Alors, est-ce qu'il le fera, ça reste à voir, mais il y a ce discours de vérité qu'ils essayent de porter du côté républicain que les démocrates n'ont pas. Et ça peut effectivement amener des voix. Maintenant, il faut voir la pratique du pouvoir et qu'est-ce qui va se passer. Moi, je suis scandalisé de voir qu'en Europe, ça ne bouge pas. Après, quand même, les scandales à répétition, ni les médias, des faux mea culpa, mais qui arrivent bien trop tard, ni les politiques qui sont capables de remettre Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. C'est incroyable de voir ce degré de compromission. Et ça, c'est aussi inquiétant. Ça dit quand même la faiblesse des institutions qui sont loin d'être représentatives.
Alors, à tous ceux qui nous regardent, toutes celles et ceux qui nous regardent, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas dans le chat. Je pourrais en prendre quelques-unes, évidemment. C'est aussi ce soir à ça qu'était destinée cette émission spéciale. Et puis, la deuxième chose, c'était, je voulais revenir sur un autre partenaire de Donald Trump, qui est Elon Musk. Donc, il y a aussi une espèce d'alliance avec Elon Musk, où semble-t-il, tous deux défendraient la liberté d'expression, et puis si Harris gagnait, ce serait la fin pour à peu près toute parole libre de circuler aux États-Unis. J'entends ça. Le fait est que, par exemple, il y a beaucoup de censure, y compris sur X, par rapport au génocide palestinien, par exemple. Et même lui, hein, il y a eu un moment donné, il s'est fait rappeler à l'ordre. Par Netanyahou, il y a eu une visite un petit peu fantasque comme ça, où il a visité un endroit où il y avait eu des bombardements, je pense dans les kibboutz, et puis il y avait un landau avec une balle d'un fusil d'assaut neuve dans le landau, là, et une mise en scène grotesque. Et puis depuis, on n'a plus du tout entendu Elon Musk piper mot à ce sujet-là, par exemple. Donc, liberté d'expression, là aussi, j'ai quelques doutes.
Ah non, mais c'est très limité. Il y a eu le juge brésilien qui a interdit X au Brésil. Elon Musk s'est plié au jugement, même s'il il a essayé de le détourner pendant quelques jours. Il y a également eu des critiques sur le fait que des voix de gauche avaient été censurées et que X mettait en avant les voix conservatrices pour le soutien de la campagne de Trump. Puis Elon Musk est passé en mode supporter numéro un de Donald Trump, quoi. Il a fait tous les meetings avec la casquette, il était partout. Enfin, il a utilisé X, où il a le plus d'utilisateurs sur la plateforme, pour en faire un outil de campagne, parce que il partait d'un constat vrai que les médias traditionnels étaient pro-démocrates, globalement, hein, et que donc les conservateurs devaient s'organiser. C'était le constat qu'avait fait Fox News, etc. Mais lui, plutôt que d'acheter une chaîne télé ou quoi, il s'est dit, je vais acheter une plateforme, comme ça on aura beaucoup plus d'écho. Et c'est vrai que ça fonctionne, hein. Trump fait campagne sur les réseaux, auprès des podcasteurs comme Joe Rogan, etc. Et pas du tout du côté des médias traditionnels. Donc c'était un objectif. Maintenant, la liberté d'expression, j'en parlais à propos de Twitch, elle est extrêmement encadrée, elle n'est pas totale, loin de là. Et encore une fois, je parle de liberté d'expression dans le cadre de la loi, hein. Je ne parle pas de dire des choses qui sont répréhensibles, je parle simplement de dire des choses qui vont déplaire parce que les annonceurs n'aiment pas les sujets. Typiquement, moi, quand je fais des vidéos sur YouTube pour dénoncer la pédocriminalité, bah, c'est des vidéos qui sont démonétisées et qui ne vont pas être poussées par l'algorithme. Voilà, donc c'est comme ça qu'on tue des sujets parce que ça ne plaît pas aux annonceurs. Voilà. C'est quand même grave.
Revenir sur le cas Epstein aussi, tu as vu, il y a 2 jours, il est sorti quand même des révélations. Il y a eu 100 d'heures d'enregistrement audio d'Epstein lui-même qui parlait de Trump comme étant l'un de ses meilleurs amis. Moi, je ne serais pas du tout. Surtout, connaissant un peu les tendances, je l'attrape par le poussi
Alors,
et de choses de Trump qui
non mais
soient
bien sûr, non
clairement
mais
trempées,
attends,
comme Elon
Trump.
Musk d'ailleurs.
Non mais Trump est un porc, on peut le dire, hein. Il a eu des comportements avec les femmes, d'ailleurs il y a eu plusieurs procès, il a payé, etc. On ne peut pas dire que ce soit un gentleman. Il a été effectivement ami avec Epstein, mais comme toute l'intelligentsia new-yorkaise, toute. Attention, hein, c'est pas Trump, oulala. Non, les Clinton étaient potes avec Epstein et avec Ghislaine Maxwell, qui était invitée au mariage de la fille Clinton quand même, Ghislaine Maxwell. Donc Bill Clinton, qui a fait beaucoup plus de voyages sur l'île, Trump n'est jamais allé sur l'île de Jeffrey Epstein. Il le connaît parce qu'il y a la connexion en Floride et parce qu'il y a la connexion new-yorkaise, et que Trump était le prince de New York et Epstein était un autre prince de New York, et que donc en tant que socialite, il se croisait dans les soirées. Et puis Trump a coupé les ponts après la première affaire de pédocriminalité de Epstein, en Floride justement, où il a été condamné, ce qui n'a pas été le cas de nombreux autres leaders politiques qui ont continué à le voir et qui sont allés sur l'île, etc. Donc voilà, il y a 2 choses. Il y a le avant la condamnation et après la condamnation.
Donc bon, tout ça pour dire que la liberté d'expression, effectivement, je la vois en grand danger avec les démocrates, mais je la vois pas forcément sauvée par le camp Trump qui, quand
Non.
voilà, quand ça l'arrangera, dira aussi ce qui peut être dit ou pas dit quoi. Enfin, là aussi, il y a une montée pour moi un peu du fascisme dans tout le monde occidental.
Oui, mais le fascisme, il est partout, c'est-à-dire qu'il est dans la volonté de contraindre les populations sur leurs déplacements, de faire toujours peur, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un camp qui est fasciste plus que l'autre. Hein. Franchement, ce que je vois, c'est une horreur. Hein. Le projet de société porté actuellement par les mondialistes est horrible. C'est une société du contrôle social où, sous prétexte de sécurité, on va empêcher la vie et empêcher les libertés. Donc, je préfère un Trump qui va se dire défenseur des libertés, voyons ce que ça donne, que quelqu'un qui va de facto expliquer que parce que tu vas parler d'un sujet interdit sur les réseaux, tu vas être censuré et finir en taule. Non, c'est pas possible, quoi.
Tu sais, il y a encore un mois de ça, quand il y a eu les tentatives d'assassinat de Trump, quand même, il y en a eu deux. Hein. Là aussi, c'est un de ces trucs qui me fait dire, ah, il voulait quand même se débarrasser de lui, puisque cette balle, elle aurait pu le tuer de la même manière. Hein. Donc, il a vraiment pas passé loin. Et à ce moment-là, je me suis dit, la course est terminée. C'est sûr, il ne peut que gagner. Et suite à ça, il y a eu le débat avec Biden. Et là, la stratégie démocrate, pour le coup, a été assez agile, puisqu'ils ont fait un coup d'État. En fait, on ne le dit pas, hein, mais pour moi, c'était un coup d'État, puisque Joe
Oui.
Biden ne voulait pas par lui-même
Bah,
arrêter. Il a été
sinon.
donc poussé par la sortie. Et à partir de là. Plusieurs choses se sont renversées parce que là aussi il y a un truc hallucinant que moi j'y croyais même pas au début, je me suis dit mais ça servira à rien parce que Kamala Harris en tant que vice-présidente était pour ainsi dire détestée. Hein. Personne ne considérait qu'elle était ni sérieuse, ni compétente, ni souhaitable pour quoi que ce soit. Et là tout d'un coup c'était assez incroyable comment la presse elle a réussi à former l'opinion publique sur Kamala Harris.
C'est en ça que quel mensonge. Un, sur l'état de santé de Joe Biden, la presse a menti pendant des mois, voire des années, hein, en faisant croire qu'il était tout à fait brillant et intellectuellement affûté. Et sur Harris, évidemment, il a fallu très rapidement gommer toute la réalité, c'est-à-dire que bah, ils l'ont caché, hein, pendant tout son mandat de vice-présidente, elle était invisible. Fallait surtout pas qu'elle fasse une déclaration, qu'elle soit visible, parce qu'elle était nulle. Parce qu'il savait qu'elle était nulle et qu'il voulait surtout pas de créer davantage de problèmes avec Joe Biden. Et là, elle sort du bois. Et je pense que les démocrates vont sortir très affaiblis de toute façon de cette période. Parce que sa candidature, pour certains, est vue comme une trahison. Donc ça passe mal. Parce que déjà que les Américains regardaient l'État central avec beaucoup de. Pas de haine, mais de méfiance, Et ben avec l'affaire Biden, ils vont être encore plus méfiants en disant, mais franchement, mais qui gouverne? C'est clairement pas Biden. Ils nous ont menti encore une fois. L'establishment nous ment. Donc ce discours sur le mensonge va revenir. Et puis le camp démocrate, se rappeler quand Biden a eu la signature pour être candidat, vous aviez tout le camp Bernie Sanders, c'est-à-dire la gauche beaucoup plus radicale, qui n'était pas du tout d'accord, qui voyait en Biden un candidat faible et qui a été obligé de dire oui, puisque après ça fonctionne comme ça, le système bipartisan. Mais les démocrates, c'est un camp extrêmement explosé, comme le sont les républicains, hein, puisque au sein des républicains, vous avez de nombreux républicains qui sont contre Trump, mais qui ne peuvent pas le dire, mais qui n'aiment pas du tout l'OPA qu'a fait Trump sur le parti. Et donc on a deux partis historiques affaiblis, divisés, et comme tu le dis, des candidats comme Jill Stein et autres qui commencent à arriver. Donc il y aura peut-être un renouveau démocratique aux États-Unis aussi dans les années qui viennent, mais ce n'est pas maintenant.
C'est effectivement pas Manon. Tu avais vu qu'il y a eu aussi pas mal de croisements partisans hein, des deux côtés. On a vu des gens comme les McCain, la femme de McCain
Ouais.
et autres qui ont passé démocrate, si je peux dire ça comme ça, et d'autres comme Tulsi Gabbard qui était par exemple démocrate, qui a passé dans le camp des républicains. On voit que ça remue quand même un petit peu les lignes traditionnelles partisanes, en ce sens où avant c'était peut-être plus clairement la gauche et la droite, bien que je crois qu'historiquement les démocrates ils étaient plutôt à droite et les républicains à gauche, et puis tout ça s'est un peu mélangé.
Oui, ça change
Voilà,
beaucoup,
c'était.
mais c'est ouais, y a eu le Tea Party aussi qui fait qu'il y a eu ce mouvement à droite du camp républicain de manière radicale hein, dans les années pré-Trump. En fait, c'est tout ce mouvement du Tea Party qui a permis de relancer cette aile radicale des républicains. Et c'est Trump qui en a fait l'OPA, alors que les républicains ne pensaient pas que ça se passerait comme ça du tout. Donc ouais, c'est vrai que c'est intéressant pour ça. Et maintenant, bah, on va voir que vont voter les Américains durant la nuit, quoi.
Oui, donc les
Voilà.
résultats, ils tomberont relativement tard hein, par rapport à ça. On ne les aura pas tout de
Ouais.
suite. Puis les tendances, on peut s'en méfier un petit peu, bien qu'après, il y a les sondages de sortie d'urne qui peuvent être relativement fiables. On verra tout ça, surtout dans les swing states. Hein, tu sais comment ça marche, mais c'est
Ouais.
particulier les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des États, on sait déjà qu'ils vont tomber dans l'escarcelle républicaine, d'autres démocrates comme la Californie par exemple. Et puis il y a, je crois, sept swing states, la Caroline du Nord, le Michigan et je me rappelle plus tous ceux, où effectivement c'est là où va se jouer la course, puisque chaque État a ce qu'on appelle des grands électeurs. Il en faut 270, si je ne m'abuse, pour passer la main, 270 grands électeurs pour devenir président des États-Unis. Ce qui aussi rend possible le fait qu'il peut y avoir, par exemple, un des deux candidats qui gagne beaucoup plus de voix, mais qui perd néanmoins les élections de par ce système, je dirais, qui vise probablement à avoir un équilibre un peu plus grand, notamment au niveau étatique, puisque les États-Unis
Ben
possèdent
ouais.
50 États, je crois, ou 51, je sais plus.
Mais c'est un système qui paraît archaïque en fait, où on comprend pas, où on peut avoir plus de votes d'électeurs et moins de grands électeurs. Et donc gagner dans les urnes, mais perdre avec le système des grands électeurs. Donc c'est effectivement étonnant et c'est ce qui donne tout l'intérêt de ces swing states qui ne sont pas acquis à un parti ou l'autre, et donc ils peuvent changer, d'où le nom swing, passer d'un côté ou de l'autre, et où il y a beaucoup d'argent dépensé dans les campagnes pour essayer justement d'aller sur le terrain, de rencontrer les gens et de les faire basculer d'un côté ou d'un autre.
T'as vu aussi qu'il y a aux États-Unis un truc qui s'appelle le gerrymandering. Je sais pas si t'as vu, mais c'est une forme de découpage électoral partisan pour que, en fait, dans les régions, les quartiers, on mette tout un groupe, soit les démocrates, soit les républicains, ensemble,
Ouais.
de sorte à ce qu'ils ne mettent pas en danger crois qu'ils appellent ça les precincts, donc c'est des petites régions dans les États. Enfin, et moi, j'ai déjà vu des cartes, mais c'est complètement dingue, quoi. Les gars, ils viennent avec des ciseaux, il faut que ça se touche quand même. Alors, tu as des trucs hyper alambiqués qui ressemblent à des labyrinthes, et puis eux, ben, ils sont plutôt dans le precinct X. Et puis tout d'un coup, tu as à côté un bloc qui est beaucoup plus homogène. Enfin, bref, j'ai l'impression que ces élections américaines ou ce système américain, c'est un petit peu l'apogée de l'arnaque, si tu veux,
Ah mais
de
complet,
l'opposé de
complet.
ce que pourrait ressembler une démocratie, quoi.
Non, non, c'est l'arnaque. Et ça va être, c'est le spectacle et l'arnaque, quoi. C'est les deux trucs incroyables. Et en même temps, là, tu vois, ça tombe, Netanyahou qui a viré son ministre de la Défense. C'est quand même pas une petite nouvelle. Et puis toutes les nouvelles, alors dans la journée où il y avait un mec avec une torche qui sentait l'essence qui a été arrêté au Capitole, visiblement il y a des tentatives d'attentat. Enfin, c'est une journée, enfin, la déstabilisation, elle est vraiment de tous les côtés. On sent que c'est très, 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 très crispé, quoi, pour ces
Tu te rappelles
élections.
certainement du 6 octobre il y a 4 ans. Quelles sont pour toi les possibilités de triche? Parce que quand on en est là et puis qu'on essaye déjà de tordre complètement, je dirais, la
Ouais, c'est
légitimité
le.
d'un système, ben, il y a forte chance qu'on ne s'arrête
Ouais.
pas à ça et puis qu'on fasse ce petit dernier bout et puis qu'il y ait de la triche. Donc il y a plein d'histoires, notamment avec les voting ballots, ça c'est ceux que tu envoies a posteriori, avec les machines électroniques, là qu'on ne sait pas comment ça marche, qui
Ça.
mettent 25 heures pour donner les résultats. Alors,
C'est
enfin
marrant
bref.
parce que les machines électroniques, tu vois, c'est la présidente géorgienne qui a accusé le vote contre le référendum sur l'Union européenne qui a eu lieu en Géorgie, a pointé du doigt les machines électroniques en disant qu'il y avait eu des malversations sur les machines électroniques. Tu dis ça, t'es
Ouais, c'est
conspi.
clair.
Trump l'a dit aussi, il veut des observateurs dans les bureaux de vote. Il y a le bourrage d'urne, effet classique, hein, qui fonctionne. Il y a le fait aussi que tu peux voter sans carte d'identité aux États-Unis, c'est particulier quand même. Voilà, toutes sortes de manipulations, la disparition aussi de certaines urnes, hein, et le vote par correspondance. Et ça fait beaucoup, c'est un pays immense avec plein d'électeurs, le décompte va être long, et je pense que moi, ce que je vois, c'est que les deux camps vont crier victoire, et que ça va être un beau bordel. Voilà, je vais devoir vous quitter,
Ouais,
parce que j'ai encore d'autres choses ce soir.
j'imagine, t'as une autre émission, il y en a qui disaient qu'il y a plein d'émissions là,
Ça arrête pas. Non, j'ai pas. Non, faut que je prépare l'émission demain parce que je me lève
Ah
très
oui, donc
tôt.
toi tu fais l'analyse
J'essaie d'avoir
plutôt
des
sur des
résultats.
chiffres
Ouais.
réels, quoi.
Ouais. Oui. Ça sert à rien d'attendre des faux chiffres. On verra demain.
Excellent.
Et ce sera à 9h plutôt que 9h30 pour
Oui.
la
Alors, à
spéciale.
ceux
Voilà,
qui
bonus
tu
sur
vas
les ondes.
rester un petit peu, tu vas essayer de dormir un petit peu avant ou
C'est
ouais.
ça, là, en l'occurrence. Dans pas
Surtout qu'en
longtemps.
plus,
Il
t'as
faut encore que
voyagé et tout.
j'appelle parce que je fais un truc avec des Canadiens. On est sur les deux côtés de l'Atlantique. Donc il faut que je les appelle là pour préparer. Et on fait un 24 heures. Et voilà, non, plein de choses. Donc
Bon, en
voilà.
tout cas, on aura de quoi discuter. Pour
Parler.
continuer cette histoire prochainement. Dès que tu reviens sous les latitudes
Avec plaisir.
helvétiques, n'hésite pas à me faire savoir.
Ah ben,
Je t'offre
toujours un
un petit
plaisir.
repas et puis on passe sur le plateau un moment. Merci et
Ben
merci
surtout,
à
on passe
toi.
un super
Ouais,
moment.
t'as dit.
Merci Antoine, je vous invite à suivre Swissbox si ce n'est pas déjà fait, qui fait un super boulot. Et
Merci,
merci.
c'est cool. Là, on avait finalement 1000 personnes sur X qui nous suivaient en
Wow.
direct, plus de 500 sur YouTube et puis encore quelques-uns par-ci par-là. Comme d'habitude, grâce à toi, Bajned, mon pote. Apparemment, il y a des gens qui me disaient, ouais, il connaît même pas le cri de ralliement d'Alexis
Bah
Poulain, là,
alors!
Bajned, là. Si, 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 je le connais, je le connais. Et je sais même d'où ça vient maintenant, tu m'as raconté l'histoire, là.
Je t'ai raconté.
Donc, Bajned, les amis,
Oh
bonne
bah voilà.
soirée à ceux et bon courage à ceux qui
Eh bah
vont
ouais.
essayer de
Et
veiller.
courage à ceux qui suivent. Ouais, ça va être n'importe quoi.
Et puis, à plus dans le bus. Ciao.
Ciao Antoine, merci
À
beaucoup.
bientôt.
Salut.